Le journal Loïc Barrière. Des experts de l'ONU appellent à une enquête internationale sur l'explosion du port de Beyrouth qui a eu lieu il y a 2 ans, le 4 août 2020. Le pape, lui, a prié pour la renaissance du Liban. À l'occasion de ce 2e anniversaire de la catastrophe de Beyrouth, entretien avec l'écrivaine Georgia Makhlouf. La trêve au Yémen, reconduite pour 2 mois supplémentaires. L'émissaire spécial espère des progrès pour arriver à la paix après 8 ans de guerre. Gérald Darmanin affirme que le Maroc a accepté d'accueillir l'imam Hassan Ikouissen, menacé d'expulsion. Enfin, des plages privées et des discothèques du sud de la France, accusées de discrimination raciale par SOS Racisme, qui a effectué des testings ces derniers jours. Entretien avec Safia Haït Ouarabi, vice-présidente de l'association. À l'occasion du 2e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, survenue le 4 août 2020, 6 experts indépendants des Nations Unies réclament une enquête internationale sans délai. Une catastrophe qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. Ces experts soulignent que cette tragédie a été l'une des plus grandes explosions d'origine non nucléaire dans l'histoire récente. Et pourtant, disent-ils, le monde n'a rien fait pour comprendre pourquoi elle s'est produite. Le pape François a prié pour les Libanais, affirmant que sa pensée va aux familles des victimes de cet événement désastreux et au cher peuple libanais. Le pape a de nouveau appelé la communauté internationale à venir en aide au Liban pour lui permettre de renaître, a-t-il dit. Le pape a évoqué la vocation du Liban, une terre de paix et de pluralisme où les communautés de religions différentes peuvent vivre en fraternité. Radio Orient reçoit dans l'émission Rencontre l'écrivaine Georgia Makhlouf. Elle a publié Le goût du Liban aux éditions du Mercure de France. Elle évoque l'explosion du 4 août 2020 au Liban. Émission diffusée ce mercredi à 21h et ce jeudi à 10h. Extrait de cet entretien.
En réalité, moi j'étais à Beyrouth et j'en suis partie l'avant-veille de cette terrible explosion. Bon, j'ai la chance d'habiter un appartement qui se trouve malheureusement dans une relative proximité au lieu de l'explosion. Et c'est un appartement du début du siècle dernier dans lequel il y a un magnifique vitrail en verre coloré qui est caractéristique des maisons anciennes. Et ce vitrail, selon la lumière et les saisons, habille mon salon de motifs assez incroyables, abstraits ou figuratifs d'ailleurs, et je le photographie sans cesse. Et le jour de mon départ, j'ai fait des photos et je les ai envoyées à un groupe d'amis en leur disant « cadeau d'adieu de ma maison ». Et je ne sais pas pourquoi j'ai écrit « cadeau d'adieu de ma maison ». Et voilà, donc comme si j'avais une espèce de prémonition. Voilà, et puis 2 jours après, ce terrible après-midi, en fait, je reçois de mon fils d'ailleurs une première information disant qu'il y a un incendie sur le port de Beyrouth. Alors au début, je ne m'inquiète pas énormément, et puis en fait, je suis bombardée de messages, et je réalise, mais ça a été très progressif, l'ampleur de cette horreur, quoi, de cette explosion quasi atomique. Alors évidemment, comment ça se passe? Ça se passe que on échange des messages, mais sans cesse, et on reçoit des messages sans cesse, on se tranquillise sur sa famille, ses plus proches, ses voisins, et puis après on élargit le cercle, et puis on apprend des nouvelles absolument terrifiantes sur le nombre des victimes, sur le nombre des blessés. Et il se trouve que j'ai 2 amis, mais vraiment très proches, qui ont l'un perdu un œil et l'autre qui a été, mais c'est entre autres, hein, c'est un exemple parmi malheureusement tant d'autres, une autre amie qui a eu de multiples fractures le long de ses bras, tous ses doigts ont été cassés, enfin des amis très proches qui ont vécu des choses terrifiantes. Et puis petit à petit, on apprend que, et encore ici et encore là, et voilà, c'est une espèce d'avalanche, voilà, c'est comme une avalanche de mauvaises nouvelles et de choses absolument terrifiantes qui nous laissent tétaniser. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire autre chose que ça. Et puis une de mes amies, quelques jours après, m'a renvoyé cette photo terrible que j'avais envoyée avec cette légende cadeau d'adieu, comme s'il y avait quelque chose de prémonitoire. Voilà.
Et cet appartement a été endommagé?
Oui, bien sûr, il a été, bien sûr. Je n'en parle pas parce que ça paraît tellement indécent de parler de biens matériels qui sont perdus. En fait, j'ai été alertée parce que une de mes amies m'a envoyé d'abord une vidéo. Vous savez, dans ce quartier dans lequel est mon appartement est un quartier qui a gardé un cachet relativement traditionnel. Et souvent, des couples qui vont se marier ont pris l'habitude de venir faire des photos de leur mariage, de leur enfin, juste avant la cérémonie, ou des vidéos dans le quartier. Et il y a une vidéo qui a ensuite beaucoup circulé d'une jeune femme en habit de mariée qui est quasiment en dessous de mes fenêtres et qui est en train de poser pour un vidéaste. Et puis, au moment où arrive cette explosion, et la mariée part en l'air comme si elle s'envolait, mais en fait c'est le souffle de l'explosion qui l'emporte, et heureusement elle n'a que des blessures. Et donc cette amie m'a envoyé cette vidéo en me disant: c'est en dessous de chez toi, elle avait reconnu, est-ce que ton appartement est détruit? À ce moment-là je ne le savais même pas encore, parce que je ne me préoccupais pas de mon appartement face à l'ampleur et puis c'est le soir plus tard que le gardien de l'immeuble m'a dit, m'a envoyé d'ailleurs une vidéo qu'il a fait avec son téléphone pour m'informer des dégâts qu'il y a eu chez moi et qui ont été absolument terrifiants. Et ce fameux vitrail a été brisé et je me suis vraiment jurée de le reconstruire à l'identique, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais ça a été un long chemin, voilà.
Alors le 4 août pour vous, Georgia Marlouf, c'est le symbole de l'effondrement du Liban, son point culminant.
Loïc, j'aurais bien aimé penser que c'est son point culminant, c'est-à-dire que quand on a atteint le point culminant, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas être pires après, et malheureusement, ce n'est pas vrai, donc je ne sais pas si on peut dire... Alors, effectivement, c'est un événement majeur, je veux dire, c'est une date qu'on n'oubliera pas et qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, comme si ce port et ces fameux silos dont on parle beaucoup... parce qu'ils ont explosé aussi, mais seulement en partie, et le pan qui n'a pas explosé a protégé du souffle une partie de Beyrouth, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants sinon, mais comme si ces silos se rappelaient régulièrement à notre souvenir, parce qu'ils s'enflamment à intervalles réguliers, comme s'il s'agissait de nous dire « surtout n'oubliez pas ». Malheureusement, quand on parle de point culminant, c'est-à-dire qu'après, les choses ne peuvent pas aller plus mal, et s'améliore, on va dire. Or, ce n'est pas le cas, puisque la situation a continué à se détériorer. Mais en effet, cette explosion quasi atomique qui a emporté une partie de la ville, qui a emporté le port et tous les quartiers avoisinants, c'est effectivement un traumatisme inoubliable et qu'il ne faudra pas oublier, bien sûr. Les Libanais ont malheureusement parfois la mémoire courte, mais là, je crois que c'est impossible d'oublier. Des choses absolument terribles. Donc, certainement, c'est d'une gravité... inoubliable, certainement. C'est une longue chaîne de corruption, d'incompétence, de cynisme, de négligence qui aboutit à ce désastre. Donc certainement, c'est un point de non-retour quelque part, mais malheureusement, à la fois l'enquête piétine, à la fois pas un responsable politique n'a démissionné, alors que dans n'importe quelle démocratie, pour beaucoup moins que ça, il y aurait eu des démissions en chaîne. Et là, rien de majeur ne s'est passé. Alors il y a bien il y a un groupe d'avocats qui se sont réunis autour du bâtonnier et qui continuent à accumuler des preuves, à avancer dans l'enquête. Alors c'est très difficile parce que beaucoup de preuves ont été éliminées. Il y a des activistes, bien sûr, qui continuent à aider les gens à reconstruire leur maison. Il y a eu beaucoup de reconstructions qui ont été faites par la société civile, par des ONG, par des dons qui sont venus de l'étranger. Donc il y a des choses qui continuent à aller de l'avant, mais effectivement, je crois que c'est un traumatisme majeur, oui, majeur, vraiment dans l'histoire et dans notre histoire personnelle.
L'écrivaine Georgia Marlouf, auteure du Goût du Liban aux éditions du Mercure de France, elle est l'invitée de Rencontre sur Radio Orient ce mercredi à 21h et ce jeudi à 10h. L'Arabie Saoudite salue la prolongation de la trêve au Yémen pour 2 mois supplémentaires, une trêve en vigueur depuis le 2 avril. Après 8 ans de guerre, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grünberg, précise que des discussions sont en cours pour aller vers une paix durable. La guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Selon l'ONU, les 2/3 de de la population yéménite a besoin d'aide humanitaire. Le Maroc est prêt à accueillir Hassan Iqiyoussen, l'imam du Nord, menacé d'expulsion. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Selon lui, le Maroc a délivré un laissez-passer consulaire. Il a d'ailleurs remercié le Maroc pour la délivrance de ce laissez-passer. Il a par ailleurs laissé entendre que l'expulsion se ferait vite dès que cet imam serait interpellé. Accusé d'avoir tenu des propos contraires aux valeurs de la République, l'imam très présent sur les réseaux sociaux a reçu le soutien de plusieurs mosquées, notamment dans le nord de la France. Il y a quelques jours, SOS Racisme a lancé une série de testings dans plusieurs villes du sud de la France. L'association a constaté lors de ces testings à Jouan-les-Pins et Antibes qu'une plage privée sur trois pratique la discrimination raciale. Par ailleurs, deux discothèques sur trois testées à Marseille et Aix-en-Provence pratiquent une sélection illégale fondée sur l'origine des personnes qui se présentent à leur porte. Entretien avec Safia Haït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme.
Cette année, un peu comme pratiquement tous les étés, par nécessité de rendre compte de la réalité de la discrimination raciale, on a effectué nos testings d'été sur quatre localités, Nice, Marseille, Béziers et Perpignan. Ces localités ont des intérêts tout particuliers parce qu'on le sait, l'été, eh bien, c'est synonyme de plage, mais aussi de loisirs comme les boîtes de nuit. Donc on a décidé de tester deux types d'établissements, les plages privées et les boîtes de nuit. Et leur particularité, effectivement, c'est qu'il y a de la sélection à l'entrée, et qui dit sélection à l'entrée dit grande possibilité de discrimination raciale.
Alors vous-même, vous avez participé à un testing à Marseille. Comment ça se passe ?
Alors un testing, ça demande beaucoup de méthodologie, une méthodologie très particulière, puisque depuis 2002 maintenant, grâce à SOS Racisme, le testing est reconnu comme une preuve recevable de manière juridique, donc pour la justice française. Donc pour ça, on doit suivre plusieurs méthodologies. Je vais vous donner un exemple concernant une plage privée à Marseille. On a décelé de la discrimination raciale. Eh bien, on constitue des groupes. À Marseille, c'était trois groupes, un groupe de personnes noires, un groupe de personnes arabes et un groupe de personnes blanches. Les deux premiers groupes vont rentrer, l'un en premier, on va appeler le groupe test 1, l'autre quelques minutes plus tard. Et si jamais l'un des deux groupes a été, donc du coup, refusé, alors très souvent les excuses qui vont être, quand il y a un cas de discrimination, qui vont être utilisées, c'est « mais vous n'avez pas de réservation » ou « nous n'avons pas de place ». Alors, on vérifie cette information, et dans ce cas-là, on envoie le groupe contrôle blanc. Si le groupe contrôle blanc est lui aussi, eh bien, ce qu'on appelle recalé, qu'il ne peut pas entrer, alors il n'y a pas de discrimination. Mais si le groupe contrôle blanc peut entrer, qu'on ne lui demande ni réservation, voire pire, c'est ce qui s'est passé à Marseille cette année, qu'on l'arrange même pour lui trouver une place alors qu'il n'y a pas de place, alors là, il y a discrimination raciale, et ce sera aux militants et aux témoins de moralité, le soir, eh bien, de remplir des papiers, de témoigner, du coup, contre l'établissement.
Alors, quel est le bilan des testings que vous avez fait ces derniers jours dans le sud de la France ?
Eh bien, dans le sud de la France, dans les quatre localités, il y avait un enjeu tout particulier. On a Marseille, qui est quand même la deuxième ville de France. Cette ville, elle commence à bouillonner tout particulièrement parce qu'il y a un tourisme qui commence à s'ancrer à Marseille. Donc, on va dire que le marché culturel de la nuit et de la plage commence à se développer et en plus à sortir un peu de l'espèce d'inertie pendant le Covid. Nice, c'est aussi une ville particulière parce que on est sur une ville qui est assez bourgeoise, qui est quand même très touristique, et où, eh bien, les préjugés peuvent grandement circuler dans cet état, dans ces établissements haut de gamme de nuit et de plage. Et puis ensuite, sur Béziers et Perpignan, qui commencent, elles aussi, petit à petit, à émerger dans le marché du tourisme, on est sur des localités où, politiquement, ce sont des localités Rassemblement National, et là, on va voir l'articulation de comment est-ce qu'il va y avoir, en fait, une connexion entre la mentalité des établissements et des institutions dans une ville et l'extrême droite politique qui est au pouvoir dans la ville. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, eh bien, dans le sud de la France, comme à Nice, Jouan-les-Pins, Antibes, une plage privée sur trois commet de la discrimination raciale, tandis qu'à Marseille, eh bien, ce sont deux boîtes de nuit sur trois qui commettent de la discrimination raciale. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, mais on est obligé de les poser. Et même si ça n'a pas été facile, à vrai dire, pour nos militants de se confronter à cela, on sait tous que c'est d'utilité publique dans une France où encore il y a un grand tabou sur la discrimination raciale et où parfois, on va dire que des agitateurs du débat public, je pense à des personnages comme Éric Zemmour, vont ne jamais s'accorder sur la réalité et sur des chiffres. Eh bien, nous, on est là pour le montrer.
Vous n'allez pas en rester là. Il y aura dépôt de plainte et vous utiliserez notamment les vidéos que vous avez tournées.
Tout à fait. Durant, en fait, un testing, ce qui est important, c'est de recueillir des preuves. Donc, au-delà des témoignages écrits et oraux que l'on va poser, en fait, auprès de la justice, pendant les testings, ça demande un peu d'agilité à la James Bond, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir filmer la scène, et cela de manière discrète. Donc, on va entendre les paroles qui vont s'échanger entre nos militants, donc du coup, les faux danseurs ou les faux plagistes et les réceptionnistes. Et alors, ces vidéos-là, elles ont vraiment une utilité qui est d'abord judiciaire, donc que l'on va garder pour nous, pour les transmettre à la justice, parce que du coup, ça va être nos preuves centrales, en fait, et les vidéos de chaque groupe seront importantes. Vraiment, l'ordre de passage des groupes est important. C'est important aussi que, évidemment, nous, les autres images qu'on va envoyer à la justice, ça va, par exemple, être nos tenues, montrer qu'en fait, nous étions, par exemple, dans chaque groupe, le même nombre de filles et de garçons, que nous étions tous habillés de la même façon, que nous avions tous à peu près le même âge, pour prouver qu'effectivement, là, s'il y a bien une centralité dans la discrimination qui a été commise, c'est bien une discrimination raciale et qu'il n'y a pas eu d'autres données qui auraient pu être prises en compte. Et puis ensuite, ces vidéos ou ces extraits audio, comme un peu dans d'autres testings d'SOS Racisme, on peut les anonymiser pour ensuite les publier auprès de nos médias partenaires pour rendre compte de la réalité, de la violence, de ce que c'est de subir une discrimination raciale.
Il faudrait que l'État soit plus présent pour lutter contre ce type de discrimination que vous révélez avec ces testings.
Il doit y avoir, je pense, vraiment une articulation entre, évidemment, un État qui doit avoir des politiques publiques ambitieuses pour lutter contre la discrimination. Mais avec ça, j'aimerais être plus précise. Quand on parle d'ambition en matière de lutte contre la discrimination raciale, il ne suffit pas d'en parler, de faire de grandes conférences, de réunir les acteurs antiracistes. Non, il faut écrire et mettre en place des politiques publiques qui tapent fort contre les discriminants. Et en cela, la justice va nous aider. Parce qu'une justice, quand nous avons des juges et des magistrats qui sont un minimum formés sur ces questions-là et qui du coup appliquent des peines, ça peut être des amendes, assez rarement de la prison avec sursis, contre les discriminants, on sait à SOS Racisme que les établissements changent radicalement de politique et que ça peut changer.
Safia Aït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme. SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières et Sea-Watch appellent l'Union Européenne à reprendre ses activités de recherche et de secours en Méditerranée. Ces dernières semaines, ces trois ONG ont sauvé des milliers de migrants partis d'Afrique à bord d'embarcations de fortune. Elles demandent aujourd'hui aux Européens de mettre en place une flotte de recherche et de sauvetage adéquate. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.